boulevard 102.1. 100% parlé tout l'été.
Eh bien oui, cet été on lâche pas les bonnes vieilles habitudes, c'est On en jase de midi à 14h. Jeff Fortin et Pascal CV pour les deux prochaines semaines. Par la suite, Pascal va prendre le relais avec Mathias Turcotte que vous connaissez très bien. Et moi, je serai de retour le 3 août après trois petites semaines de vacances. Hey, les boss m'ont donné ça cet été. Ça remonte à v'là 12 ou 13 ans que j'ai pas eu trois semaines de vacances scolaires l'été.
C'est mérité. Ouais,
c'est ça. J'ai calculé ça. J'ai dit, hein, la dernière fois, c'est qu'on est allé à Walt Disney. Puis je pense qu'Eliott avait 7 ans. Puis là, il est rendu à 18. Fait que prêt à quitter le nid familial.
Aïe, 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 ça, c'est des grosses étapes.
OK, oui, déménagement le 9 août pour Eliott Fortin à Chicoutimi. J'ai bien hâte de voir ça.
Pour les études, en plus,
oui,
il va avoir
du fun. Oui, puis pour
aller
jouer au football là-bas, il va avoir du plaisir.
Moi, c'est dans mes plus belles années, mes études au Saguenay.
Ben oui, non, il va avoir du plaisir. Il va avoir beaucoup de plaisir. Il ressemble à son père, il aime ça, le party.
Oui, il y en a pas mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ça devrait bien aller. Parlant de déménagement, on va parler dans quelques instants avec Karine Boivin-Roy, qui est la ministre de l'Habitation pour la Coalition Avenir Québec. Mais avant, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Des choses importantes. D'abord, deux cas de rougeole par la santé publique qui ont été déclarés, un à Saint-Raymond et l'autre à Pont-Rouge. Alors, vous avez bien entendu, c'est du côté de Portneuf. Premier cas qui est lié à un voyage à l'étranger. Le deuxième, c'est issu d'un contact avec le premier cas. Donc, des personnes qui ont pu être en contact avec la rougeole dans différents commerces de Pont-Rouge, Super C, Dollarama, Jean Coutu, ainsi qu'à l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond, les 12, 13, 14, 15, 23 et 26 juin dernier. C'est ce qu'on lit dans le communiqué de la santé publique de la capitale nationale. On demande donc aux citoyens qui auraient fréquenté ces lieux-là de faire preuve de prudence. Je vous rappelle, Super C, Dollarama et Jean Coutu de Pont-Rouge et du côté de l'hôpital régional de Portneuf. Surveillez-vous deux cas déclarés de rougeole. La Cour supérieure qui a autorisé des transfusions sanguines à un bébé prématuré. Vous dites quoi? Oui, c'est un dossier hyper important et c'est un dossier de croyances religieuses. On se rappelle d'Héloïse Dupuis qui était décédée parce qu'elle n'avait pas eu ses transfusions sanguines après un accouchement. Donc, témoin de Jéhovah. Et c'est encore un genre de dossier du type. Donc, les parents qui refusaient de consentir aux soins en raison de leurs croyances religieuses du côté du CHU de Québec, Université Laval. Et malgré le refus des parents qui sont témoins de Jéhovah, on a autorisé du côté de la Cour supérieure l'administration des transfusions de produits sanguins à un bébé prématuré. C'est un jugement qui s'est fait rapidement, donc on est allé rapidement en audience le 25 juin dernier. L'enfant était né à seulement 26 semaines. Il présentait une cardiopathie en plus d'un retard important de croissance. Puis on demandait du côté du CHUC l'autorisation d'aller avec les transfusions de produits sanguins à fréquence, la quantité jugée appropriée par l'état de santé de l'enfant pour une durée de 4 mois. Les parents disaient non. Les soins étaient requis. Qu'est-ce qui a fait branler dans le manche, là, puis qui a été débattu en droit, c'est que l'article 14 du Code civil du Québec, qui confère, oui, aux parents, l'autorité de consentir ou non aux soins requis par l'État pour la santé de leur enfant, pour l'âge pour un enfant mineur. Mm-hmm. Mais l'article 16, OK, toujours du même Code, permet au tribunal d'autoriser que les soins soient prodigués à un enfant mineur quand les parents sont empêchés de consentir ou refusent de le faire de façon injustifiée. Et c'est là que ça a permis de trancher. Si on ne faisait pas les transfusions de produits sanguins, l'enfant pouvait subir des dommages irréversibles et aussi en mourir. Vente immobilière, il y a Québec solidaire qui fait la une en ce moment. On propose d'imposer 100 % du gain en capital. Donc, on veut serrer la vis aux propriétaires d'immeubles de logement au moment de la vente de leur actif. C'est un parti de gauche, vous savez, donc, c'est 100 % du gain en capital obtenu selon les transactions dans le but de s'attaquer à la spéculation immobilière dans la province. À l'heure actuelle, c'est 50 % Jeff, des profits des ventes immobilières qui sont imposés. Je peux te parler aussi de Donald Trump parce que c'est une journée importante pour Donald Trump en nouvelle. Entre autres, c'est la Cour suprême qui refuse d'annuler le verdict dans l'affaire E. Jean Carroll. C'est quoi ça? Bien, je vous rafraîchis la mémoire, là. C'est la demande du président Donald Trump qui vise à annuler cette décision-là du jury selon laquelle il aurait agressé sexuellement l'écrivaine dans un grand magasin de New York au milieu des années 90.
Merci beaucoup, Pascal CV. Parlant de Québec solidaire et d'imposer à 100 % les transferts immobiliers, on va aller parler d'habitation avec la ministre de l'Habitation, Karine Boivin-Roy. Madame Boivin-Roy, merci beaucoup pour votre présence à l'émission On en jase.
Mais avec grand plaisir, puis je vous entendais parler tout à l'heure. Je peux rajouter que je suis originaire de Scoutimi.
Ah oui? Donc, oui. La belle grande région du Saguenay?
Effectivement. Alors... Ah. Je pense que la personne de qui vous parlez tout à l'heure va avoir beaucoup de plaisir à faire ses études là-bas.
C'est certain. C'est mon fils Elliot qui s'en va là. Donc, il s'en va à Chicoutimi. Bon, ben. On va jouer au football là-bas. Ketlani familiale à 18 ans.
Ça, c'est un gros moment, ça.
Ah oui, ça va être un très, très, très gros moment, mais il a bien fait ses choses. On est très, très, très fiers de lui. Madame Boivin-Roy, je commencerai avec 2153 ménages. Là, c'est les dernières statistiques que j'ai trouvées au Québec présentement qui sont à la recherche d'un logement. C'est 301 dans la région de Québec. Qu'est-ce qu'on doit faire si présentement, on est le 29 juin et j'ai pas encore d'appartement pour le 1er juillet?
Ben, si vous me permettez, je vais vous donner mes chiffres. Parce qu'au 29 juin, là, ça, c'est tout frais, c'est 9237 demandes qui ont été faites à l'échelle du Québec dans les services d'aide à la recherche du logement, les fameux SARL.
Mm-hmm.
Et au moment où on se parle, il y en a 70% de ces cas-là qui sont réglés.
Ah, bonne nouvelle!
Alors, les SARL, oui, c'est une très bonne nouvelle. Les SARL, il y en a une quarantaine là, qui sont déployés à travers le Québec. Et c'est des services qui sont accessibles, des services gratuits à tous les ménages locataires, peu importe les revenus des gens, là, les gens qui sont à la recherche d'un logement. On les invite à appeler les SARL. Ils sont ouverts 7 jours sur 7 depuis le 20 juin jusqu'au 5 juillet prochain. Également, là, pour les gens qui n'ont pas de SARL dans leur région, il y a les services d'urgence de la Société d'habitation du Québec qui est en heure prolongée également. Donc, tous ces gens-là sont là, présents, mobilisés et prêts pour aider les gens pour le 1er juillet, s'assurer que personne qui appelle là, se retrouve sans logement.
Madame Boivin-Roy, je suis un peu sidéré parce que ce matin, dans la presse, on apprend qu'il y a 25 000 logements qui sont libres sur l'île de Montréal. Je lisais dernièrement aussi ces fameux immeubles à condos locatifs qui sont construits un peu partout au Québec. C'est jusqu'à 5 % des logements qui sont libres. Comment on pourrait faire pour faire en sorte que les gens à plus faible revenu aient accès à ces logements-là?
Ben écoutez, la première chose qu'il faut se dire, par contre, c'est qu'il faut comprendre ce qui a été analysé. Parce que l'indicateur qui a été utilisé, là, c'est un indicateur d'Hydro-Québec pour une très faible consommation d'électricité. Et ça nous a donné ce chiffre-là de 25 000 logements vacants. Mais après ça, ça peut correspondre à plusieurs réalités. Ça peut être des logements qui ne sont pas occupés parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a un mauvais état de bâtiment, parce que c'est des condos invendus. Ça peut être des pieds à terre pour des gens, des vacants, des gens qui utilisent ça au niveau temporaire pour des vacances. Bref, il y a toutes sortes de raisons, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que les 25 000 logements vacants, c'est 25 000 logements qui sont prêts à être utilisés demain. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au gouvernement du Québec, on travaille sur trois fronts. On travaille sur la construction de logements, parce que plus on construit de logements, plus il y en a de disponibles, plus ça permet de lutter cette fameuse crise de l'abordabilité. Ensuite, on travaille aussi sur la rénovation du parc HLM et on travaille aussi sur l'aide à la personne, les fameux programmes de supplément loyer, les programmes d'allocation logement. Donc, on travaille sur les trois fronts en même temps pour essayer de lutter contre la crise de l'abordabilité.
J'ai une question pour vous parce que, bon, on comprend vos fronts et tout ça, mais il y a une situation vraiment particulière qui est venue à mes oreilles dans la dernière semaine. Une personne qui a travaillé au gouvernement toute sa vie, fonctionnaire depuis qu'elle avait 18 ans, cette personne-là, tombe à la retraite, a de la difficulté à se trouver un logement selon ses rentes et selon son fonds de pension et tout ça. En ce moment dans la ville de Québec. Et la personne a commencé à me donner plus d'informations. J'ai posé des questions. Ça semble être une situation récurrente parce que la hausse des coûts de loyer n'a pas suivi aussi ces rentes-là, ces fonds de pension-là, la façon dont ils sont capables de payer mensuellement leurs dépenses. On s'en va-tu dans une crise avec la population vieillissante?
Bien, c'est sûr que je suis de tout cœur avec cette personne-là. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour la remercier pour ses années de service au gouvernement. Et puis, effectivement, c'est pas simple, la situation présentement. En plus, on peut ajouter aussi le coût de l'épicerie qui est plus cher pour tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on déploie toutes sortes de situations, et toutes sortes de solutions innovantes, je vous dirais, là, pour pouvoir aider les gens. La semaine passée, peut-être que vous avez entendu qu'on a sorti avec le PSL, là, je vous parlais tout à l'heure, là, du supplément au loyer. Donc, on a sorti 1000 PSL d'urgence pour aider les gens dans la situation là, difficile du 1er juillet. Quelques semaines auparavant, on a aussi parlé des PSL prévention, 1000 PSL prévention, justement pour une situation comme vous me le décrivez, là, une dame âgée qui peut vivre des particularités dans sa vie, des fois on pense à des points de bascule. Les gens peuvent vivre une fin de carrière, une perte d'emploi, un deuil, et puis ça peut faire là, qu'ils vont se retrouver à la fin du mois et qu'ils ne seront pas capables de payer leur loyer. Donc, c'est pour ça qu'on met différentes solutions comme ça de l'avant pour pouvoir aider les gens. Puis tout à l'heure, si je parlais des SARL, là, ben les SARL, lorsqu'on appelle, là, puis je me permets de vous donner le numéro de téléphone, c'est le 1-800-463-4315, 1-800-463-4315. Quand on appelle son SARL, c'est un, je vous dirais, là, un réseau d'entraide collectif qui s'ouvre à nous. Il y a le gouvernement du Québec, le réseau de la santé, les offices d'habitation, les organismes municipaux. Tout le monde est mobilisé pour aider les gens, les accompagner pour trouver la solution à leur situation particulière. Donc, ils aident pour trouver de l'hébergement temporaire, pour déménager, pour entreposer, puis même les frais de déménagement et d'entreposage. Ils vont connecter aussi les ménages avec des aides financières disponibles. Alors, que les gens appellent leur SARL.
Merci, c'est très, 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 très intéressant comme information. Madame Boisvin-Roy, je me pose la même question que Mario Dumont dans sa chronique de ce matin dans le journal de Québec, Journal de Montréal. Est-ce qu'on serait pas mieux, justement, de donner plus d'aide de supplément au logement ou même des subventions à des promoteurs privés pour qu'ils créent du logement abordable et du logement social à même leur projet de développement que le gouvernement se lançait encore dans les projets de logement social à des coûts très élevés?
Je dirais que la solution, là, c'est une multitude de solutions. C'est notre coffre à outils. On a besoin d'être innovants. On travaille de différentes manières. Et entre autres, là, je vous donne par exemple le projet de loi 31, là, le fameux super pouvoir qui permet à des municipalités de construire davantage de logements abordables. Mm-hmm. Bien, en 2024, il y a 19 municipalités pour 44 projets qui ont utilisé le super pouvoir. Ça a donné 3800 logements de plus. Bien, regardez, cette année, en 2025, on est passé de 19 à 25 municipalités, de 44 à 119 projets et de 3800 à 20 700 projets. Alors, quand on dit là, qu'il faut trouver des solutions innovantes, c'en est une.
Non, en effet, je vous le donne, c'est une bonne solution, mais c'est juste que je regarde la décrépitude de nos logements sociaux, puis juste ici, là, il y a un bon article dans Le Soleil ce matin, là, au niveau du bâtiment des franciscains qui est complètement désuet, puis je me dis, le gouvernement n'est pas capable de suivre la parade, n'est pas capable de le gérer adéquatement, le parc. Fait que pourquoi on ne permet pas à des promoteurs privés de le faire?
Ben, écoutez, vous savez qu'on gère notre parc immobilier, donc au Québec. On a un gros parc immobilier qui est important. Cette année, là, dans le budget 2026-2027, c'est 780 millions qui sont investis. Et ça se rajoute aux investissements qui ont déjà été faits. Là. C'est 3,6 milliards que le gouvernement a investi entre 2018 jusqu'à 2028. Puis je vous rajoute un autre chiffre. Je me permets de vous le rajouter.
Allez-y.
C'est un chiffre qui frappe l'imaginaire, là. En habitation, depuis 2018, c'est 11,6 milliards qui ont été investis dans toutes sortes les trois luttes que je vous ai parlé, là. Parce qu'il faut travailler sur les trois fronts en même temps. Il faut travailler sur la construction. Il n'y en a pas de solution magique, là. Il faut continuer de construire, Mais en même temps, il faut aussi rénover notre parc immobilier. Il faut rénover l'existant. Puis en même temps, il faut continuer d'aider les gens avec différents programmes, comme les PSL.
C'est un peu là ma piste de solution, c'est d'utiliser plus de PSL puis plus de subventions aux partenaires privés pour que le gouvernement rénove ce qu'il a à rénover, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme nos infrastructures municipales, qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on coupe toujours des nouveaux rubans.
Bien, écoutez, dites-vous que quand on coupe un ruban, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est un projet qui se réalise, puis des fois, c'est des projets qui sont dans des cartons depuis plusieurs années, là. Donc, il y a énormément de gens qui travaillent à la réalisation des projets. Donc, moi, je vais vous dire, là, chaque annonce que j'ai pu faire où il y avait justement une coupure de ruban, bien, j'avais devant moi là 50, 70, 100 personnes très heureux qui ont été impliquées à différents niveaux, là. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis on va continuer à en annoncer des projets, là, parce qu'évidemment, c'est ça qui est important. Le plus on annonce de projets, le plus on a de logements, bien, c'est un ménage, deux ménages, 10 ménages, 20 ménages, si vous voulez, là, de plus qui se retrouvent avec un ménage et avec un logement qui va répondre à leurs besoins. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille, parce qu'il n'y a pas un ménage qui n'en vaut pas la peine. Et moi, le mandat que j'ai, c'est justement de travailler sur ces trois fronts-là et de trouver des solutions innovantes. On en a déployé. On a aussi les fonds fiscalisés, on a les développements qualifiés, les développeurs qualifiés, puis vous avez bien sûr entendu parler de mission unité née. Alors, on continue de travailler pour toutes les classes de population.
Madame Boivin-Roy, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps à l'émission On en jase ce midi. Je vous souhaite un bel été. Vous allez avoir besoin d'un peu de repos parce que ça va être une campagne électorale pour vous très éreintante à compter du mois de septembre.
Effectivement, c'est un été bien rempli, mais comme vous l'avez vu avec la première ministre ne lésine pas sur les moyens. Ah, elle est active, elle est dynamique, elle est sur le terrain.
Elle est hyper active, Christine Fréchette?
Oui,
là, on a parlé à Marcel Bouchard, un candidat du PCQ qui est full hyperactif. La première ministre est full hyperactif. C'est quoi la recette? Qu'est-ce qu'il mange?
Ben, écoutez, je pense que c'est d'être convaincu pour les Québécois et Québécoises d'avoir une vision et puis de vouloir se donner au service public. Moi, ça fait 12 ans que je suis en politique. Ça fait 12 ans que je crois en le fait qu'il faut aider le plus possible la population à différents niveaux. Je pense que l'habitation, bien évidemment, vous savez comme moi que c'est tributaire de beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Ça a des influences sur la santé, ça a des influences sur la vie familiale, ça a des influences sur l'éducation, sur la réussite scolaire. Alors, c'est pour ça que le mandat que m'a donné la première ministre, je le prends très au sérieux, d'aider le plus possible de Québécois et Québécoises.
Merci beaucoup, Karine Boivin-Roy, et au plaisir de se reparler.
Au plaisir de se reparler, puis encore une fois, bonne chance à votre garçon à Scutimi.
Merci, c'est gentil, au revoir. Karine Boivin-Roy, ministre de l'Habitation au niveau de la Coalition Avenir Québec. Tu vois, Pascal, moi, t'es, elle nous donne des indicateurs qui sont réels, puis des réalisations qui sont réelles, puis honnêtement, t'es, je salue le fait que le gouvernement s'est mis en branle depuis le gros crash, depuis la crise du logement en 2023. Cependant, je trouve que on reste encore dans notre vision, t'es, tunnel, là, de dire, ah ouais, ça va passer par le gouvernement, les logements abordables, les logements sociaux, alors qu'il y a déjà des aides qui existent individuelles, qui, je crois, feraient bien plus la job parce que t'as pas de bâtiment à construire, t'as pas de bâtiment après ça à entretenir, t'as pas tous ces coûts-là qui viennent avec.
T'ajoutes pas une charge aussi administrative dans quelque chose qui peut souvent aller vite.
Ben oui.
Au gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui peut aller vite. Là. C'est d'énormes structures, on le voit dans tous les paliers.
En plein ça, puis tu donnes une subvention à n'importe quel promoteur immobilier qui monte un bâtiment, puis tu lui dis, hey, voilà ta subvention, puis dans tes 200 logements, ben, t'en as besoin de 10-15% qui sont abordables, qui sont sociales, c'est sûr qu'il va le faire.
William Trudel, de Trudel Immobilier, en parle souvent, là, puis c'est quelque chose que lui trouve aussi important, mais
ben
il
n'est
pas le seul. C'est juste que lui, il a eu beaucoup de couverture médiatique dans les dernières années, parce qu'il développe énormément.
Exactement.
À Québec. Mais il parlait justement de toute cette difficulté-là, puis du quasi-cheval de Troie, tu sais, de vouloir aider pour la communauté, mais de ne pas être capable de faire débloquer ce qu'il faut au niveau gouvernemental. Puis ce serait la porte la plus rapide, de ce qu'on comprend en ce moment, la voie la plus rapide pour aider. Tu sais, le cas dont je te parlais, là, moi, ça me scie les jambes.
Puis c'est clair.
On en a parlé en ondes, puis on a reçu un texto, je te le lis.
Oui, vas-y.
Je travaille au gouvernement. Puis je trouve ça très ironique que ce soit deux cas de gens qui ont travaillé au gouvernement toute leur vie, OK? J'ai travaillé au gouvernement, j'ai topé en tech administrative après 22 ans d'ancienneté. Je gagne 73 000 $ brut. Il me reste 1 885 $ net par paye. Mon loyer est de 1 217 $ par mois. Aucune folie à faire.
Ben
là,
non.
Ça, c'est pour 2026, OK? Mais là, tu as toujours une augmentation annuelle dans un loyer. Cette personne-là n'a pas fini. Elle a topé le salaire. Elle a topé tout ce qui allait rentrer tout au long de sa vie. J'aimerais connaître son âge parce que là, on veut garder les gens à la maison le plus longtemps possible, surtout si on est en santé.
Ben oui.
C'est une personne qui est en logement. Est-ce que du jour au lendemain, elle va à la maison? Je pense pas.
Non.
Fait que ça va continuer d'augmenter.
Exactement.
Son
pouvoir d'achat va toujours continuer à diminuer.
Toujours.
Tout le temps.
On va se ramasser avec des personnes âgées dans des logements qui ont de la... Puis c'est déjà le cas.
Oui.
Qui ont de la misère à joindre les deux bouts et donc à s'alimenter.
C'est
qui vont
clair.
Probablement tomber plus malades. Qu'on va envoyer au système de santé parce que le stress financier, la difficulté à s'alimenter...
Vont perdre leur autonomie. Donc là, on va
moins d'activité sociale.
Ben
ils sortiront pas de chez eux.
Physique.
Parce que t'as pas d'argent.
Exactement.
C'est des choses que... Je pense pas qu'on ait des érudits pour y penser en ce moment, mais je pense que c'est le genre de situation hyper importante.
Oui.
Et la personne ajoute, j'ai 52 ans et je suis célibataire. Combien de personnes vivent des séparations puis se ramassent là-dedans? De la misère à payer
exactement.
Leur déménagement,
ben oui.
mais qui ont travaillé toute leur vie,
ben oui.
ironiquement.
Parce que moi, là, à 5, puis tu sais, c'est juste un calcul mathématique que je vais faire, mais à 5% de logements locatifs, les fameux immeubles à condos locatifs qui sont libres, donnent des subventions aux gens individuellement pour qu'ils aient dans ces logements-là. Puis t'as réglé ta crise du logement.
Ben, du moins, tu l'as amélioré.
Et là,
peut-être que ça vient avec d'autres choses qu'on ne voit pas venir, des angles morts, mais
c'est là, puis là, t'as pas de gestion de parc immobilier à le faire. Parce que Mario Dumont a raison, j'avais entendu le dire dans son émission à LCN, puis là, il l'a écrit ce matin, il a raison de dire « Le gouvernement est pas bon pour gérer des parcs immobiliers. » Puis c'est vrai, c'est pas une spécialité que le gouvernement a développée.
Puis aller aux études, aller chercher du monde qui sont bons, mais pour la suite des choses, d'accord, mais en ce moment... Attribuez-vous pas des qualités administratives que vous n'avez pas dans
c'est
des
ça.
Fonctions ou des specs que vous n'avez
ben
pas
oui.
parce qu'on perd du temps, puis c'est des gens qui en souffrent. 73 000 $ là, Jeff, là, pour la personne, là. Pas mal sûr que du monde qui nous écoute gagne pas mal moins que ça, qui sont aussi célibataires, qui sont aussi en logement, qui
n'arrivent
pas à trouver chaussures à leurs pieds pour avoir un toit sur la tête. Puis on commence à voir une itinérance augmentée, puis il y en a plein qui nous parlent.
Une itinérance très âgée. Éric Boulay nous l'a dit, non? 64, 65 ans, des gens tombent en itinérance parce que la petite rente n'est pas encore rentrée du gouvernement, fait que floup.
Puis, tu sais, on comprend le propriétaire de dire je peux pas encaisser des retards de paiement pendant des mois et des mois. T'sais, c'est moi qui vais être aussi dans le trou à un moment. Puis, mais il y a quelque chose dans l'engrenage qu'il faut aller dénouer beaucoup plus que ce qu'on a entendu dans l'entrevue et rien contre. Madame, son nom de famille, rappelle-le-moi.
Boisvin-Roy.
Boisvin-Roy. Rien contre elle. Tout contre la façon dont on gère au gouvernement, puis que tout est long, puis tout est difficile, puis que justement, on se
exactement.
Donne des
cartes qu'on n'a pas. Oui, puis il faut arrêter de penser, comme Québec solidaire, je vais faire une petite parenthèse, que là, les propriétaires, c'est des méchants, puis il faut les taxer.
Il faut travailler ensemble.
Il n'y a pas un petit propriétaire d'un triplex ou d'un 4-5 portes qui va maltraiter ses locataires. Puis d'autant plus si le gouvernement dit « gars, je vais te donner une petite subvention, toi. Gars, ton 5 logements, là. Il y en a un, ça va être abordable, social. Ben, il va s'organiser pour garder son nom puis que ça aille bien. » Et même principe pour les grands entrepreneurs de ce monde comme les Trudel que tu parlais tout à l'heure. C'est des gens qui ont une fierté. C'est des gens qui veulent garder un bon nom, une bonne notoriété. Puis c'est des gens que ça va coûter bien moins cher au gouvernement de les aider, eux, à aider la population que le gouvernement de se lancer eux-mêmes dans des constructions d'habitations là, à loyer modique.
Puis on va être dans un contrôle des finances. On va savoir exactement où on le met puis la manière dont ça va être dépensé.
En
parce que tu peux
ça.
Faire des crédits d'impôt, tu sais, envoyer de l'argent.
Oui.
Mais est-ce que les gens vont vraiment le mettre dans le loyer? Tu sais, tu peux pas toujours être sûr. Puis si tu es un gouvernement qui veut absolument être certain que tu l'injectes à cet endroit-là, c'est pas pour contrôler ce que tu donnes à l'individu. Mais peut-être que tu es capable de faire en sorte que ça aille vraiment là si c'est
vraiment.
Ton but. Mais moi, ça m'inquiète, là. Énormément. Puis je pourrais poser la question aux auditeurs 418-971-1021. Êtes-vous dans cette situation-là? Je te répète, le 73 000, c'est peu de gens qui y touchent, qui sont là-dedans. Puis où est-ce qu'on se dirige dans les prochaines années? C'est juste des loyers qui vont augmenter, des gens qui n'auront pas plus d'argent mensuellement, l'inflation alimentaire.
On a créé une classe moyenne pauvre au Québec.
Ah,
c'est ça qu'on a fait.
Se creuse
on a créé une classe moyenne pauvre, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en terminant, t'es moi pour servir des paniers de Noël à chaque année dans les organismes communautaires puis aller faire des livraisons dans les HLM, là. Je vais te dire une affaire, là. Crime que tu as une perte de confiance en toi puis tu as une perte d'estime de soi à vivre dans des logements délabrés comme ça, abandonnés par le gouvernement. Prends ces gens-là, mets-les dans un complexe. Puis là, je vais reprendre ton exemple de Trudel. Mets-les dans un beau complexe à Fleur-de-Lys. Logement Trudel, où tu rentres, beau hall d'accueil, salle commune, tout ça, l'estime de soi augmente. Qu'est-ce que ça fait? Plus de désir de bouger, plus de désir de se trouver un meilleur job, plus de désir dans la vie plutôt que de vivre dans quelque chose qui est délabré, pas entretenu par le gouvernement. Ça, on n'en parle pas assez de ce côté-là de santé mentale. Hey, je rentre dans un HLM, moi, qui a le panier de Noël, puis je... Hey, my God, je voudrais-tu pas vivre là?
Hey, arrivé avec des capuchons. Moi, la dernière scène que je me souviens dans ma tête, là, à Boucher Généreux, c'est les capuchons. Puis à peine, je vois ses yeux. Puis le fait qu'on. Parce qu'on a fait du bénévolat,
ben
la gang de boulevard là-bas. Puis le fait qu'on entrait en communication avec eux, tu sais, au début, ils voulaient même pas. Puis à un moment donné, ils voyaient qu'on était gentils. Fait que là, OK, ils échangent deux, trois mots, mais le plus rapidement qu'ils pouvaient partir.
C'est
ils
clair.
Le font. Puis souvent, c'est ça. C'est des gens qui travaillent. Je veux pas rembarquer là-dedans. On en parle depuis 5 ans. On en parle depuis 7 ans. Il est là le problème. Qu'on en parle depuis 7 ans.
Hey, une personne,
ça augmente encore.
Une personne sur 5 au Québec. A besoin de banque alimentaire.
Puis tu sais, le point, là, de se dire, est-ce qu'on se prend en main, là, c'est correct qu'on l'amène sur la table pareil. Est-ce qu'on se prend assez en main en tant qu'individu? Pas de problème.
Mm-hmm.
On peut l'amener sur la table. C'est important d'en discuter ça aussi. Je veux pas qu'on soit juste dans le communautaire, dans le filet
non,
social.
Non, moi non plus.
Cependant, c'est très anormal les situations dont on a parlé. Et c'est très anormal quelqu'un qui va avoir 3 jobs, qui va faire 80 heures semaine, pour essayer de faire en sorte d'avoir une certaine vie qui est moyenne.
Oui, puis là, chaque année, il se dit, ouais, il faut que j'en prenne une quatrième parce que j'arrive plus. Ça n'a pas de sens.
Sa braquette d'impôts change. Ouais. Fait que là, il doit encore plus d'impôts. Fait que finalement, c'est-tu vraiment dans ses poches? C'est capoté, là.
Oui, beaucoup de beaux textos qui rentrent. Si les propriétaires n'arrivent pas à faire de l'argent lors de la vente de leur immeuble, pour en faire, ils augmenteront les loyers encore plus. C'est Charles-Étienne, excellent point. Je fais 4 500 bruts aux deux semaines. J'en ai clair, bon, 2 200, 2 500. Ça s'appelle Vivre au Québec et payer des impôts. J'ai pas 50$ de l'heure, mais c'est ça, j'en travaille 60, 70, 80 heures semaine, c'est la réalité.
C'est ça, ils travaillent plus d'heures, mais ça part beaucoup en impôts.
On mentionne aussi même les invalides, leur pension diminue au lieu de suivre le cours. Donc, t'es même les gens, malheureusement, qui sont vus comme étant invalides. Continuez de nous texter au 418-971-1021. Toujours intéressant d'avoir vos commentaires. Après la pause, Pascal, on se fait un petit bloc hockey. Avec Matt Paradis de Tout sur le hockey, on va revenir sur le repêchage de la Ligue nationale de vendredi. Deux échanges pour le Canadien de Montréal aujourd'hui. Ça bouge énormément. C'est les joueurs autonomes mercredi dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on se fait un petit bloc hockey Ligue nationale au retour de cette pause de l'émission dans Jazz. Jusqu'à 14.